Le journal présenté par Ilan Malka.
Bonsoir. Les Vénézuéliens sont appelés depuis ce matin à élire 545 membres d'une assemblée constituante, un scrutin sous très haute tension. Les contestations de l'opposition sont très vives. Cette nuit, un candidat a été tué par balle. Il s'agit d'un avocat de 39 ans. C'est la deuxième fois que cela se produit. Un autre candidat avait été assassiné précédemment. On ne sait pas encore par qui et pourquoi. De leur côté, les Sénégalais élisent aujourd'hui leurs députés face à la majorité du président Macky Sall. Il y a quelques 47 listes qui se présentent. Nous entendrons le reportage sur place de Lou Garçon. En Israël, la peine d'Elor Azaria est confirmée en appel par une cour militaire. Cet ex-sergent de l'armée israélienne avait été condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir abattu un assaillant palestinien à terre à Hébron en mars 2015. Nous entendrons les explications de notre correspondante à Jérusalem, Marine Vlaovic. Et puis en France, ce nouvel épisode dans le dossier décidément très animé de la reprise des chantiers navals de Saint-Nazaire. Ce matin, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, dit vouloir créer une coopération avec les Italiens dans le domaine militaire. Nous intéresserons notamment à la façon dont la nouvelle est accueillie au niveau local. Les Vénézuéliens votent donc depuis ce matin pour élire les 545 membres de leur assemblée constituante. Il s'agit d'un scrutin extrêmement polémique, très contesté par l'opposition, qui affirme que le président Maduro essaye par ce moyen de s'arroger les pleins pouvoirs. Nicolas Maduro a été le premier à voter très tôt ce matin à 6h, heure locale. Écoutons Maria José, une chavista d'une trentaine d'années, qui est venue voter ce matin, à la première heure également, avec ses amis. Pour elle, cette constituante est importante pour contrer l'opposition. Elle soutient Nicolas Maduro depuis toujours.
La importance de sortir aujourd'hui tous à voter est pour pouvoir défendre notre patrie, notre peuple.
C'est important de venir voter pour défendre notre pays. Il faut prendre des mesures pour en finir avec tout ce qui se passe en ce moment. Avec l'extrême droite, on doit se débarrasser de ces fascistes et de ceux qui mijotent, parce qu'ils veulent nous enlever notre liberté et tout ce qu'on a construit ces 18 dernières années.
La derecha fascista que quiere acabar bueno con nuestra libertad y con todo lo que hemos logrado en estos 18-19 años en nuestro pueblo. Maduro es la representación del pueblo. Maduro es la continuación de Chávez.
Maduro représente le peuple, il est l'héritier de Chávez. Tous deux incarnent ce pourquoi on se bat. On ne laissera pas l'extrême droite nous voler cette élection. C'est très important d'être là pour soutenir notre président et notre peuple.
C'est important non seulement de respaldar à notre président, mais de respaldar à notre peuple et bueno, muchos años de historia.
Des propos recueillis par Sandrine Etoa Andek. Par ailleurs, les autorités vénézuéliennes ont confirmé aujourd'hui deux nouveaux décès survenus hier. Un candidat abattu lors d'un cambriolage dans l'état de Bolivar et un homme tué lors d'une manifestation dans l'état de Mérida. L'opposition fait pour sa part état d'un bilan de 5 morts pour la seule journée d'hier. Également appelés aux urnes aujourd'hui, les Sénégalais doivent élire leurs députés. Le scrutin a commencé à 8h et il se termine à 18h heure locale, donc dans 2h. Il ne s'est pas déroulé sans encombre pour le moment. De nombreux bureaux ont ouvert avec du retard. Dans certains centres, il a fallu nettoyer les lieux après les violents orages qui ont touché le pays dans la nuit. Dans d'autres bureaux, les bulletins n'avaient pas été acheminés à temps, dans leur intégralité. Enfin, des électeurs se sont plaints de ne trouver leur nom dans aucun bureau. Face à la majorité du président Macky Sall, quelques 47 listes se présentent donc au Sénégal. Écoutons le reportage sur place de Lou Garçon.
Ces dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin sont pour l'opposition la preuve de l'incompétence des autorités. Âgé de 91 ans, l'ancien président Abdoulaye Wade et tête de liste d'une frange de cette opposition a fait de la critique du régime actuel son principal argument de campagne.
Moi, je me suis prêté à l'invitation de mon parti et de notre coalition au Sénégal pour être élu. Évident que je serai élu.
Le 30 juillet pour une majorité.
Abdoulaye Wade est un homme qui appartient au passé. Les mots prononcés en fin de campagne sont ceux du premier ministre sénégalais Mahamat Dion, candidat de la majorité présidentielle, l'un des favoris de ce scrutin avec Khalifa Sall, opposant et maire socialiste de la capitale sénégalaise, soupçonné de détournement de fonds publics et incarcéré depuis 4 mois. Khalifa Sall, dont le visage s'affiche un peu partout à Dakar, aura été le grand absent de cette campagne. Babacar Ndiaye, analyste politique.
Les Dakarois ont salué son bilan et il a été reconduit pour un deuxième mandat. C'est quelqu'un qui commençait à montrer ses compétences, mais il est clair qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit dans l'intention, c'est quelque chose d'assez inédit et il y a beaucoup de questions à se poser.
Malik, habitant du quartier populaire de la Médina où toutes les grandes coalitions sont passées, n'est convaincu ni par le régime ni par l'opposition.
Que ce soit du camp de l'opposition ou du camp des gens qui sont au pouvoir, c'est la même chose. Une fois à l'Assemblée, ils font ce qu'ils veulent.
Des législatives qui pourraient être boudées par une large partie de la population. En 2012 déjà, le taux de participation avait été inférieur à 40%.
Et les premiers résultats de ce vote à un tour sont attendus dans la nuit. En Israël, c'est la nouvelle étape d'un procès extrêmement suivi. Une cour militaire israélienne confirme donc aujourd'hui la peine d'Elor Azaria. L'ex-sergent avait été condamné à 18 mois de prison ferme pour homicide involontaire en février dernier. Il avait abattu un assaillant palestinien à terre à Hébron en mars 2015. La scène avait même été filmée, elle avait provoqué de vives réactions. La défense avait fait appel de cette condamnation et aujourd'hui l'appel est donc rejeté. Tout comme la demande des procureurs d'augmenter cette peine pour homicide volontaire. Les explications de notre correspondante à Jérusalem, Marine Vlaovic.
Un à un, les juges militaires ont rejeté les arguments de la défense d'Elor Azaria. Non, l'assaillant déjà à terre ne présentait aucun danger pour le jeune soldat israélien qui l'a pourtant abattu d'une balle dans la tête en mars 2015 à Hébron. Non, Elor Azaria n'a pas agi conformément aux règles d'engagement de l'armée israélienne. Il s'est comporté comme sur un stand de tir et non comme sur un lieu d'attentat, a déclaré la cour militaire, qui a rejeté l'appel déposé par l'ex-sergent après sa condamnation à 18 mois de prison ferme. Rejeté également l'appel des procureurs qui demandaient à ce que cette peine soit réévaluée. Elor Azaria, qui a achevé son service militaire il y a peu, pourrait déposer un recours auprès de la Cour suprême israélienne ou demander la grâce présidentielle. Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien, a déjà plaidé pour son amnistie. De leur côté, les Palestiniens et les organisations de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch dénoncent une condamnation symbolique et une politique systématique du tirer pour tuer adoptée par les forces israéliennes. Depuis le début de ce que l'on nomme l'intifada des couteaux en octobre 2015, les ONG estiment que dans la plupart des cas d'assaillants palestiniens abattus, il s'agit d'exécutions sommaires.
Par ailleurs, en Israël, toujours, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a défendu aujourd'hui sa décision de retirer les détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Il affirme avoir fait ce choix dans l'intérêt de la sécurité. Au Liban, une opération d'échange de dépouilles entre le Hezbollah et l'ex-front al-Nosra est en cours. Alors cela se passe près de la frontière libano-syrienne. Cet échange fait suite à des combats entre les deux groupes dans la montagne qui sépare le Liban de la Syrie. Le Hezbollah avait imposé une trêve mercredi dernier à Beyrouth. La correspondance de Laure Stéphan.
C'est sous la supervision de la Croix-Rouge libanaise qu'ont débuté ce matin les opérations d'échange de dépouilles entre le Hezbollah et l'ex-front al-Nosra. Les deux groupes se sont affrontés pendant près d'une semaine dans la zone montagneuse qui sépare le Liban de la Syrie au-dessus de la ville d'Ersal. C'est dans ce no man's land désertique que des djihadistes de l'ex-front al-Nosra avaient trouvé refuge depuis plusieurs années. Sous le coup de l'offensive du Hezbollah, ils ont perdu la quasi-totalité du territoire qu'ils contrôlaient et ils se sont retranchés près de positions tenues par l'organisation État islamique. Les combats ont été suspendus par une trêve mercredi dernier. Ils se sont soldés par la mort d'au moins 25 combattants du Hezbollah et par celle de 50 à 100 djihadistes. Le Hezbollah cherche toujours à récupérer les dépouilles de ses combattants, même des années plus tard. L'opération d'échange rentre dans cette logique. Elle doit être suivie par le transfert des hommes de l'ex-front al-Nusra vers la province syrienne d'Idlib, contrôlée par les groupes anti-Assad. Des milliers de civils vont aussi être acheminés vers cette région. En échange, le Hezbollah doit obtenir la libération de 5 de ses combattants faits prisonniers en Syrie. Son rôle dans les combats à la frontière, tout comme cet échange qui a été négocié par le chef de l'un des services de sécurité libanais, illustre une nouvelle fois la puissance du parti chiite armé.
Laure Stéphan, le quartet arabe anti-Qatar reste très ferme dans ses exigences contre le petit émirat. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn se sont réunis à Manama, qui est la capitale de Bahreïn. Ils se disent prêts à un dialogue avec Doha, mais le Qatar doit accepter tout un lot d'exigences non négociables et assez nombreuses, puisqu'il y en a 13. Le Qatar doit ainsi arrêter de soutenir des organisations islamistes comme les Frères musulmans. Le Qatar doit également fermer la chaîne de télévision en continu Al Jazeera, fermer également une base militaire turque ou encore prendre clairement ses distances avec l'Iran et alors un dialogue sera donc possible avec ses voisins. Le boycott entamé en juin dernier se poursuit donc pour le moment. Les efforts de médiation déployés par le Koweït et impliquant les États-Unis ou la Turquie n'ont produit jusqu'ici aucun résultat. un projet d'attentat déjoué en Australie. Les terroristes voulaient commettre une attaque à la bombe dans un avion. Ils ont donc été mis en échec par les services de lutte antiterroriste de Sydney. C'est une première dans ce pays qui, jusqu'ici, a été relativement épargné par le terrorisme, bien qu'il fasse partie de la coalition internationale contre Daesh. Correspondance de Caroline Lafargue à Melbourne.
Un attentat à la bombe artisanale dans un avion, c'est du jamais vu en Australie et pourtant la menace était crédible d'après les autorités. Pour le chef de la police fédérale, Andrew Colvin, pas de doute, ce projet d'attaque, c'est, je cite, du terrorisme d'inspiration islamique. Les autorités ont fait des descentes dans plusieurs maisons à Sydney cette nuit, saisi des matériaux explosifs et arrêté 4 hommes. La loi australienne permet aux enquêteurs de prolonger leur garde à vue pendant une semaine sans avoir à les mettre en examen. Pour l'instant, les 4 hommes n'ont pas été inculpés. Les contrôles de sécurité ont été considérablement renforcés dans les aéroports australiens, provoquant des retards. C'est la première fois que l'Australie est visée par un complot terroriste aussi élaboré, a souligné Malcolm Turnbull, le Premier ministre. Jusqu'à présent, le pays était surtout la cible d'attaques peu sophistiquées, de loups solitaires, des autodidactes qui peuvent donc improviser rapidement. Mais là, il s'agirait bien d'un complot planifié par un réseau.
Caroline Lafargue, les États-Unis annoncent avoir procédé aujourd'hui avec succès à un essai de destruction en vol d'un missile balistique par leur système antimissile THAAD. L'essai a été mené au-dessus de l'océan Pacifique. Alors on pourrait se dire qu'il s'agit d'une réponse à l'essai qui a été mené hier par la Corée du Nord, qui a testé avec succès un missile balistique intercontinental, ajoutant avoir désormais la capacité de frapper le territoire des États-Unis. Mais non, c'est un hasard de calendrier, cet essai américain était programmé de très longue date. L'agression ce matin d'une députée La République En Marche, Lauriane Rossi, qui est élue dans les Hauts-de-Seine, a donc été frappée dans la matinée vers 11h sur le marché de Bagneux, au sud de Paris. Elle raconte qu'elle a d'abord été interpellée par un passant hostile au programme d'Emmanuel Macron, qui au départ ne manifestait pourtant pas d'agressivité particulière. L'homme lui a finalement adressé un violent coup de poing dans la tempe droite, affirme-t-elle. Il a ensuite pris la fuite avant d'être rattrapé et entendu par les forces de police. La députée n'a pas perdu connaissance, mais a été sonnée. Son agression a été dénoncée sur Twitter, notamment par Édouard Philippe, le Premier ministre, ou encore par le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. À Marseille, un engin explosif artisanal a explosé cette nuit devant les locaux du mouvement d'extrême droite Action Française. Sans faire de victimes ni de dégâts, la police judiciaire a été chargée de l'enquête. À Marseille, les explications d'Olivier Martoc.
L'immeuble de la rue Navarin, situé dans un quartier calme du centre-ville qui abrite les locaux de l'Action Française, est intact. L'explosion vers 4h du matin a fait peu de bruit et peu de dégâts. Un mur noirci. Sur la toile, en revanche, cet acte déchaîne les passions au sein des groupuscules politiques concernés. L'Action Française de Provence, la victime, dénonce d'autres tentatives d'intimidation par le passé, comme le dépôt devant la porte de l'appartement d'une grenade quadrillée et deux balles de Kalachnikov. Le mouvement d'extrême droite, qui diffuse des idées royalistes, impute ses actions aux frappes, le Front révolutionnaire antifasciste de Provence, un groupuscule d'extrême gauche qui, sur sa page Facebook, revendique de s'attaquer à l'Action Française, mais ne va pas jusqu'à reconnaître ces faits délictueux. Pour les enquêteurs, ces deux mouvements représentent une dizaine de militants extrémistes. Les plus vindicatifs sont connus et fichés.
Olivier Martoc à Marseille. Que va devenir STX ? Nouvel épisode aujourd'hui dans le dossier de la reprise des chantiers navals de Saint-Nazaire. Alors jeudi dernier, on avait appris leur nationalisation temporaire, le temps de mener les négociations avec l'Italie. Et aujourd'hui, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, dit vouloir créer une coopération avec les Italiens dans le domaine militaire. C'est ce qu'il affirme dans le journal du dimanche. Il veut créer un champion de l'industrie navale européenne. Pour le président de la région des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, qui est membre des Républicains, c'est une bonne idée. Voici sa réaction.
Bien sûr que c'est quelque chose qui est sur la table. Mais encore une fois, moi je veux que toutes les garanties, vous m'entendez bien, soient données au chantier naval pour qu'on puisse assurer son développement dans notre territoire, à Saint-Nazaire, dans les Pays de la Loire, avec un maximum de personnel, d'emplois, en respectant en même temps les entreprises sous-traitantes. C'est dans ce sens-là, comme président de région, que j'ai toujours travaillé. Au bout du bout, Phil Cantieri verra bien que 80 millions d'euros, c'est peu de choses pour un chantier qui est une pépite mondiale. Mais en tout cas, quelle que soit la solution, avec ou sans Phil Cantieri, il faut que nous puissions avoir cet ancrage territorial représenté par des entreprises, des PME qui sont aussi des co-traitantes du chantier naval. Ça aura beaucoup de sens, je crois.
Bruno Retailleau sera reçu à Bercy mardi matin avec une petite délégation d'entreprises locales. Demain, c'est globalement du beau temps qui est attendu sur le pays. Il y a quelques secteurs qui pourront connaître des épisodes de précipitations, notamment le Grand Est où il pourrait y avoir de la grêle, attention. La Bourgogne-Franche-Comté et la Nouvelle-Aquitaine pourraient être concernées par des averses également, mais ailleurs, ce devrait être ensoleillé du côté des températures. Demain matin, donc, ça part de 17 degrés dans la Manche et ça monte jusqu'à 30 degrés. En Corse. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Il a été réalisé à la technique par Alex Dang.